Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? En direct sur Radio Saféréol 94.2, le quatrième mardi du mois à 11h, retransmis le dimanche suivant à 13h. Avec Sophie au micro, Pierre à la technique, l'émission qui compte. Chères auditrices, chers auditeurs de Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Merci d'abord à ceux qui nous ont manifesté leur enthousiasme pour notre émission. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Alors aujourd'hui, je vous propose un voyage interstellaire. Nous allons partir dans la Lune et dans les étoiles. D'abord, l'histoire d'un chasseur. Pavel Pavlovitch était le meilleur chasseur de son village. Avec son arc, ses flèches et son lasso, il partait seul. Et il chassait l'ours, il chassait le tigre blanc, et jamais il ne revenait bredouille. Grâce à lui, au village, il y avait toujours de la nourriture. Il était respecté. Mais pourtant, le cœur de Pavel Pavlovitch était dur comme la pierre. Le regard de ses yeux verts était froid comme la glace. Et ses colères soudaines et imprévisibles terrorisaient les filles, ce qui fait que, bien qu'il soit un grand chasseur et fort bel homme, eh bien, aucune ne voulait se marier avec lui. Et voilà qu'un jour, Pavel Pavlovitch a chargé son traîneau de fourrure des animaux qu'il avait chassés, hermine, zibline, peau d'ours, et puis il est parti, jusqu'à un village très éloigné. Et il a su adoucir le froid de ses yeux verts. Il a su apporter des cadeaux et se montrer suffisamment aimable pour séduire la belle Ivana. Ivana avec sa tresse blonde et ses yeux bleus comme l'azur. Il a offert des cadeaux aux parents de la jeune fille et eh bien, elle a senti son cœur battre pour ce bel étranger. Les parents ont été séduits par sa générosité et le mariage a été conclu. Pavel a ramené Ivana dans son village et à partir de ce jour, elle a vécu avec lui dans sa yaranga, sa tente. Pendant un an, elle a tanné les peaux des animaux que lui tuait. Elle s'est occupée du feu, des repas, et la nuit, ils partageaient la même couche. Elle s'acquittait de ses devoirs d'épouse, mais Pavel était brutal et elle souffrait de son manque de tendresse. Alors, chaque nuit, lorsque les étoiles brillaient, Pavel dormait d'un lourd sommeil, Ivana se levait et elle invoquait les étoiles. « Je vous en prie. « Faites que je ne porte pas d'enfant. Pavel ne serait pas un bon père. Il n'est pas prêt pour être père. Il faut du temps encore. Je vous en supplie, que mon ventre reste plat. » Et le ventre d'Ivana restait plat. Le temps a passé au village. Les copains de Pavel se moquaient de lui. Ils lui disaient « Alors, Pavel, il faut qu'on t'explique le mode d'emploi. » Et lui était furieux, il voulait un fils, il l'emmènerait à la chasse avec lui. Et il était de plus en plus brutal avec sa femme, et il chassait, il restait de plus en plus tard à la chasse, il chassait trop et beaucoup plus que ce qu'il pouvait rapporter, il enfreignait les règles de la taïga. À une nuit, il s'est réveillé. Sa femme n'était pas à ses côtés. Et il l'a entendu dehors qui invoquait les étoiles. « Faites que je ne porte pas d'enfant. Pavel n'est pas prêt pour être père. » Alors lui, le mari, il a hurlé de rage. Et il s'est levé, il a cassé tout ce qui tombait sous sa main. Et puis il est sorti, il a saisi sa femme brutalement, il l'a jetée par terre. Ensuite, il a attrapé son arc, ses flèches, son lasso. Et il est parti comme un fou. Il est allé tuer. La terre est devenue rouge, rouge du sang des animaux qu'il a tués. Mais Pavel s'en moquait et rien ne pouvait l'arrêter. Et tout, tout ce qui s'est passé cette nuit-là, le carnage qu'il a accompli. Eh bien, les herbes, les plantes de cette région-là s'en souviennent encore. Ivana, pendant que son mari déversait sa folie meurtrière, elle a parlé aux plantes, aux herbes et aux rochers. J'ai aimé Pavel Pavlovitch. Je me suis comportée en bonne épouse pour lui. J'ai patienté. Je pensais qu'il allait changer. Je pensais que je retrouverais l'homme si aimant qui était venu me chercher dans mon village. Mais maintenant, je sais qu'il ne changera pas. Alors, c'est trop tard. Vous, les herbes, les plantes, gardez mon secret. Ne lui dites pas où je suis partie. Puis Ivana a ouvert ses bras blancs et elle s'est adressée à ses amis, ses grandes amies, les étoiles. « Toi, grand ours, prends mes jambes, mes bras et ma poitrine. Toi, petit ours, prends mes yeux, ma bouche, mes cheveux et mon visage. Et toi, étoile du soir, prends mes poumons, mon cœur et mon ventre blanc. » Les étoiles ont entendu la prière d'Ivana. Et la jeune femme s'est dispersée en 1000 morceaux qui sont montés dans le ciel et qui sont allés s'accrocher sur les étoiles. Pavel a fini par rentrer à la maison. La yaranga était froide et vide, le feu éteint et tout ce qu'il avait cassé était là, tel qu'il l'avait laissé, brisé en morceaux. Il a appelé sa femme, il l'a cherchée. De l'aube au crépuscule, il l'a cherchée. Elle l'a cherchée encore de la tombée de la nuit au lever du jour. Et ne l'a pas trouvée. Il a demandé aux voisins et aux voisines, personne n'a répondu. Il a demandé à l'herbe, « Herbe, as-tu vu passer ma femme? Dis-moi où elle est allée. » L'herbe a répondu, « Ce que j'ai vu, tu ne le verras pas. Ce que je sais, tu ne le sauras pas. Tu ne respectes rien, ni la vie, ni ta femme. Je ne te dirai rien. » Pavel a demandé au buisson, « Dites-moi, où est ma femme ?» Les buissons ont répondu, « Ce que nous avons vu, tu ne le verras pas. Tu casses nos branches, et tu écrases nos baies bonnes à manger. Non, nous ne te dirons rien. » Alors Pavel a demandé aux mousses et aux champignons, « Dites-moi, dites-moi, aidez-moi à retrouver ma femme. » Les mousses n'ont rien répondu. Les champignons non plus, sauf un, la fausse orange. Un champignon orange et blanc, un champignon qui fait voir les choses de l'autre monde au chaman. Elle, la fausse orange, a répondu à Pavel Pavlovitch. « Moi j'ai vu, moi je sais et je te dirai. » Ta femme, Pavel Pavlovitch, ta femme est partie dans les étoiles. Elle s'est dispersée en 1000 morceaux. C'est là que tu dois aller la chercher. Dans la grande ours, dans la petite ours et dans l'étoile du soir. Et la fausse orange a expliqué au chasseur comment faire pour aller chercher sa femme dans le ciel. Pavel a pris une défense de morse. Il y a taillé une barque. Il a pris son arc, ses flèches et son lasso, et puis il a prononcé la formule magique. Il est monté dans la barque qui est devenue à sa taille. La barque s'est envolée dans le ciel. Et il a navigué parmi les étoiles, jusqu'à la petite ours. Là, il a vu les cheveux de sa femme. Il a lancé son lasso, mais lui, le grand chasseur, et n'a rien attrapé. Il a navigué jusqu'à la grande ours. Il a vu les jambes de sa femme. Il a lancé ses flèches. Mais lui, le grand chasseur, il n'a rien touché. Il a navigué de l'étoile du soir à la petite ours, à la grande ours. Lui, le grand chasseur, il n'a rien ramené. Il lui restait une seule flèche. Il a arrêté sa barque. Et il a réfléchi. Ses yeux verts se sont remplis de perles de diamants qui ont coulé sur ses joues. Il a jeté son arc et sa dernière flèche dans le vide. Et puis, tout doucement, il a regardé la petite ours. Elle a demandé, « Ivana, je t'en prie. J'ai besoin de tes yeux pour éclairer mon chemin. Alors les yeux d'Ivana se sont décrochés des étoiles et ils sont venus se poser dans la barque. Pavel a continué. Ivana, ma chérie, j'ai besoin de ta bouche pour t'entendre chanter. J'ai besoin de ta chevelure blonde si douce sous mes doigts. J'ai besoin de caresser ton visage. Et la bouche, les cheveux et le visage d'Ivana, eux aussi, sont venus se poser dans la barque. Pavel a navigué jusqu'à la grande ours. Il a demandé « Ivana, Ivana, je t'en prie, j'ai besoin de tes mains qui savent si bien me nourrir et me caresser. Je voudrais ta poitrine pour y poser ma tête, la douceur de tes bras et de tes jambes autour de moi, la chaleur de ton corps contre le mien. » Et les bras, les jambes, la poitrine, eux aussi sont venus dans la barque. Alors Pavel a conduit sa barque jusqu'à l'étoile du soir. « Vous, vous les poumons, revenez s'il vous plaît. Venez respirer les parfums des fleurs à mes côtés. Et toi, le cœur, viens, viens battre à côté du mien. Je ne peux plus vivre si tu ne reviens pas. » Les poumons et le cœur sont revenus. Puis Pavel Pavlovitch a regardé le ventre blanc, le ventre de son épouse qui restait accroché sur l'étoile du soir. Il l'a regardé longtemps. Et enfin, il a murmuré « Viens, viens, je t'aime, je te désire. Viens porter notre enfant, nous l'aimerons tous les deux. » Tout doucement, le ventre s'est décroché et il est venu dans la barque. Et Pavel, dans sa barque, a glissé jusqu'à se poser sur la terre. Alors, tous les morceaux d'Ivana se sont rassemblés et elle était là, devant lui, bien vivante, avec son doux sourire, sa longue tresse blonde. Pavel a murmuré « Je te demande pardon. Je t'aime. » Ivana a plongé ses yeux dans le regard vert aussi tendre que l'herbe du printemps. « Rentrons chez nous », a-t-elle dit. Ensemble, ils sont rentrés dans leur yaranga. Et l'histoire dit qu'à partir de ce jour, ils ont vécu heureux. Pavel est devenu un mari aimant et tendre. Et plus tard, un très bon père.
Je l'ai vue près d'un laurier, elle gardait ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit c'est de rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. À la foire du village, un jour je lui ai soupiré que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier, et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans. Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantine. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantis. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai.
Là-haut sur la colline, Joe Dassin pour notre pause musicale. Alors, dans beaucoup de pays du monde, il y a des explications au fait que la Lune est tantôt ronde et grosse et puis qu'elle diminue, qu'elle devient un croissant et qu'elle repousse. Et voici une de ces explications. C'est l'histoire d'un roi. Un roi qui avait un palais superbe, beaucoup de serviteurs, il avait des coffres remplis de pièces d'or et de pierres précieuses, il avait des terres, des forêts, des villages. Mais ce roi-là, il n'en avait jamais assez. Alors il lui en fallait toujours plus, il a fait la guerre au roi voisin pour agrandir encore son royaume. Il est devenu le roi le plus puissant du monde. Alors il a commencé à s'ennuyer. Qu'est-ce qu'il pourrait bien encore conquérir ? Ah, la nuit, il en perdait le sommeil. Et voilà qu'une nuit, il s'est levé, il était là à contempler les étoiles depuis le balcon de sa chambre. Il a vu au-dessus de sa tête, bien haut dans le ciel, la lune. La lune ronde et brillante qui semblait le narguer. « Je veux la lune !» a crié le roi. Ouais, mais la lune était là, là-haut, et bien accrochée dans le ciel et bien loin. Alors le roi a convoqué aussitôt tous ses conseillers et il a ordonné la construction d'une tour, la plus haute tour du monde, qui irait jusqu'à la lune. Les maçons se sont mis au travail. Quand la main-d'œuvre a commencé à manquer, les hommes, les femmes du pays, jeunes et vieux, même les enfants et tous les courtisans, fort contrariés de salir leurs beaux costumes, tout le monde a été réquisitionné pour construire cette tour. La tour s'est élevée encore un peu. Quand les pierres sont venues à manquer, le roi a ordonné de couper tous les arbres du royaume. La tour s'est élevée encore plus haut. Son sommet se perdait dans les nuages. Les ouvriers ont travaillé sans répit. Enfin, il n'est plus resté aucun matériau dans le royaume, plus de pierre, plus de bois, plus rien. La tour touchait le ciel. Elle était terminée. Les ouvriers sont tous descendus et le roi allait enfin réaliser son rêve, attraper la lune. Il a commencé à grimper. Et il lui a fallu toute la journée pour arriver en haut de la tour. À ce moment-là, au-dessus de sa tête, la lune brillait, pleine et ronde, juste au-dessus du sommet de la tour. Et le roi a tendu le bras. La lune était juste un tout petit peu trop haute, il manquait une marche. Le roi s'est mis sur la pointe des pieds et il a essayé de sauter, à peine perdu. Il lui manquait pas grand-chose, juste un tout petit peu. Alors, agacé, il a appelé en criant de toutes ses forces vers ses sujets qui étaient massés au pied de la tour. « Il manque la dernière marche !»« Comment ? Que voulez-vous ?» ont hurlé les voix depuis le bas. « Encore une marche ! Vite !» a crié le roi. Il était furieux. Il voyait que la lune allait lui échapper. Les sujets ont regardé, mais ils ne savaient pas quoi faire. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de pierre, ni le moindre bout de bois. Et en haut, le roi trépignait de rage. La lune n'était pas là pour longtemps. L'aube commençait à se lever. « Passez-moi une pierre ou je vous fais couper la tête à tous !» a hurlé le roi. « Majesté, il n'y a plus de pierre !» Mais prenez la première chose qui vous tombe sous la main, bande d'imbéciles! Alors affolé, le plus vieux ministre a saisi la première pierre qu'il a trouvée et c'était la première pierre de l'édifice. Il l'a passé à l'artilleur en chef. Celui-ci a mis la pierre dans la bouche d'un canon. Il allait faire feu et expédier la pierre au roi par un tir bien ciblé, mais il n'en a pas eu le temps. La tour a chancelé. Tout le monde a pris ses jambes à son cou, a déguerpi à toute allure. Et dans un fracas indescriptible, la tour s'est effondrée. Juste avant que la tour ne s'effondre, le roi, sauvé par son instinct de conservation, a sauté avec l'énergie du désespoir et il a réussi à s'accrocher à la lune. Et c'est là qu'il vit désormais. Pour se nourrir, il grignote la lune. Et voilà pourquoi elle rétrécit. Lorsqu'elle devient juste un mince croissant, le roi jeûne jusqu'à ce qu'elle ait repoussé. Et voilà, comme il est puni de son avidité jusqu'à la fin des temps. Alors, est-ce que la lune est bonne à manger ou pas? Eh bien, je n'en sais rien. Mais nous allons partir maintenant au pays Cheyenne. Les Cheyennes étaient des chasseurs de bisons et de daims et ils faisaient partie des Indiens des plaines, le peuple des bisons. Ils étaient respectés pour leur haute taille, leur intelligence et leur courage indomptable. Et ils ont mené un rude combat contre les Blancs, il y a bien longtemps de cela. Au pays Cheyenne, il y avait une jeune fille qui s'appelait Kiona, ce qui veut dire « colline dorée ». Elle vivait avec son père et sa mère, et dans son tipi, et elle fabriquait des vêtements. Elle cousait à point si fin qu'on ne voyait pratiquement pas les coutures qu'elle faisait, et au premier coup d'œil, on pouvait dire si c'était un vêtement, un sac, un carquois qui sortait de ses mains. Elle réalisait aussi des broderies avec des piquants de porc-épic et des perles de couleur, des broderies qui étaient tellement belles, tellement originales, que toutes les femmes venaient les admirer. Et voilà qu'un jour, Kiona a commencé à coudre un costume d'homme. Un costume en daim blanc. Il y avait la tunique, le pantalon, les mocassins, les guêtres, les gantelets, le costume complet. Elle a mis des semaines ensuite à broder chaque pièce et elle a rajouté des franges en poils de bison. Le costume était splendide. Mais sa mère était très étonnée. Pourquoi est-ce que sa fille fabriquait un costume d'homme? Elle n'avait pas de frère, pas d'amoureux et le costume n'était pas du tout à la taille de son père. Quand Kiona a eu terminé le premier costume, elle en a fabriqué un deuxième, puis un troisième. Elle a travaillé une année entière à tailler et à broder 7 tenues d'homme. Enfin, la dernière, ce n'était pas tout à fait une tenue d'homme, elle était pour un enfant. Quand Kiona a eu terminé son 7e costume, elle a dit à sa mère « Quelque part, à de longs jours de marche d'ici, habitent 7 frères. Un jour, le monde entier les admirera. Puisque je suis fille unique, eh bien, j'ai décidé de les adopter pour frères. C'est pour eux que j'ai fait ces habits et je vais aller leur porter. » Ainsi, tu en as décidé, ma fille, répondit la mère. Eh bien, ainsi, il en sera. Mais si tu veux, je t'accompagne dans ton voyage. C'est trop loin pour toi. Alors, je vais t'accompagner une partie du voyage et puis moi, je reviendrai ici et toi, tu continueras ta route. La mère et la fille ont fait 7 paquets avec les 7 costumes. Elles les ont chargés sur les dos de leurs chiens parce qu'à cette époque, au pays indien, il n'y avait pas encore de chevaux. Ensuite, elles ont mis aussi des provisions, de la viande et des baies séchées. Puis, elles se sont mises en route. Elles sont parties vers le nord. Kiona avait l'air de très bien connaître le chemin. C'était comme si elle y était déjà allée. Sa mère était étonnée, mais Kiona lui a dit « Mais tu sais, moi j'ai vu le chemin en rêve, j'y suis déjà allée là-bas. » Et comme ça, elles ont marché longtemps, puis un jour, la mère a dit « Eh bien moi, je m'arrête là, je ne peux pas aller plus loin. » Elles se sont partagées les chiens, elles se sont dit adieu et la mère est repartie vers son village au sud, tandis que Kiona continuait sa route vers le nord. Et un après-midi, elle est arrivée un grand tipi qui se dressait isolé au bord d'une large rivière. Kiona a appelé. « Je suis la fille qui cherche ses frères. Je vous ai apporté des cadeaux. » Un garçonnet d'une dizaine d'années est sorti du tipi. « Moi, je suis le plus jeune des 7 frères. Les autres sont partis à la chasse. Ils vont bientôt revenir. Mais je savais que tu allais venir, parce que tu sais, moi, j'ai des dons de divination. Et puis, j'ai aussi le don de patouche. » « Et qu'est-ce que c'est que ça ?» a demandé Kiona. « Oh, tu le sauras quand il faudra. Bienvenue dans notre tipi. » La jeune fille a donné à son petit frère le costume qu'elle avait fabriqué pour lui. Il a voulu l'essayer tout de suite et elle lui allait à la perfection. Oh, et il a adoré les broderies en piquant de porc-épic. « Moi, je vous prends tous pour frères, » a dit Kiona. « Moi, je suis bien contente de t'avoir pour sœur. » Alors la jeune fille a déchargé les autres costumes et les provisions. Elle a dit au chien de rentrer chez ses parents et ils sont partis aussitôt, tranquillement. Dans le tipi, il y avait 7 lits qui étaient faits de paillasses de sauge posées sur des treillis en saule. Kiona a disposé un costume sur chaque lit. La tunique, le pantalon, les mocassins, les guêtres et les gantelets. Puis avec les provisions qu'elle avait apportées, elle a cuisiné un repas pour 8 personnes. Le petit frère l'a aidé. Et vers le soir, les 6 autres frères, les chasseurs, sont revenus, chargés de viande de bison. Le petit garçon s'est précipité à leur rencontre. Et il a montré son beau costume. « Où as-tu trouvé ces beaux habits ?» a demandé le frère aîné. « Il nous est venu une sœur. Elle est très belle. Et elle vous attend dans le tipi. Elle a cuisiné aussi. Elle a apporté des beaux habits pour vous aussi. C'est elle qui les a faits. » Alors, les frères étaient heureux d'avoir une sœur. Les habits étaient bien à leur taille. Et à partir de ce jour-là, ils ont vécu tous ensemble. Kiona s'occupait du tipi. C'est elle qui cousait, qui faisait la cuisine. Et eux, ils allaient à la chasse. Le petit frère restait souvent avec elle. Le temps a passé. Et un jour, où les grands frères étaient partis à la chasse, un jeune bison est apparu devant l'entrée du tipi. Et il a gratté le sol et il a cogné du sabot. L'enfant est sorti et lui a demandé « Mais qu'est-ce que tu veux ?»« Je suis envoyé par le peuple des bisons. Nous voulons votre sœur, si belle et si adroite. Elle doit venir vivre chez nous, parmi les bisons. »« Elle ne veut pas venir, tu ne l'auras pas, » a répondu l'enfant. « Va-t'en. »« Ah, comme tu veux, mais demain, quelqu'un de plus puissant que moi viendra, » a répondu le jeune bison. Elle est partie avec force ruade et des mouvements désordonnés dans tous les sens. Le lendemain, le petit garçon et sa sœur étaient à nouveau seuls, quand une femelle bison est apparue. En grognant, elle s'est posée devant l'entrée du tipi. « Je suis envoyée par le peuple des bisons. Je viens prendre ta sœur. Nous la voulons parmi nous. »« Tu ne l'auras pas, » répondit l'enfant. « Va-t'en. » Demain, quelqu'un de plus puissant que moi viendra. Elle ne viendra pas seule. Elle vous tuera tous si vous refusez de nous donner votre sœur. Sur ces mots, la puissante femelle s'en est allée. Le troisième jour, les grands frères, au lieu de partir à la chasse, y sont restés au camp pour protéger leur sœur et leurs petits frères. Et soudain, la terre a commencé à trembler. D'abord légèrement, et puis de plus en plus fort. Et un bison gigantesque est apparu. Et il était suivi de toute la horde des bisons. Leur marche faisait trembler la terre. Le grand bison a mugi avec un bruit de tonnerre, en grattant le sol de ses sabots devant le tipi. Les 6 aînés, qui regardaient par une fente du tipi, ont été glacés de peur. Et le jeune frère, lui, il est sorti hardiment. « Que veux-tu, grand bison ?»« Je veux ta sœur. Si tu me le refuses, je vais vous tuer, tous. »« Elle ne veut pas aller avec toi. Va-t'en. Alors je vais vous tuer. » Le grand bison s'est préparé à charger. Le petit frère a appelé sa sœur et ses frères. « Vite, vite, venez, attrapez les branches du grand pin là-bas. » Kiona et ses six frères, ses six grands frères, se sont précipités vers le pin et ils ont grimpé dans les branches. L'enfant, lui, a pris son arc. Il a lancé une flèche dans le tronc et puis vite, sans perdre une seconde, il a rejoint les autres dans les branches. Et la flèche magique a agi rapidement et le tronc du pin s'est élevé vers le ciel et ils sont tous retrouvés hors d'atteinte des bisons. Et en dessous d'eux, ils voyaient la horde qui piétinait. « Je vais abattre cet arbre à coups de corne !» a grogné le bison géant. Il a chargé et il a fait osciller le tronc comme s'il s'agissait d'un arbrisseau. Kiona et ses frères se cramponnaient aux branches. « Petit frère, sauve-nous !» Le petit frère, lui, il surveillait tout ce qui se passait. Quand il a vu que l'énorme bison se préparait à charger une seconde fois, il a tiré une deuxième flèche dans le tronc du pin. L'arbre a grandi au corps de 1000 pieds vers le ciel. Le bison a chargé et il a arraché avec ses cornes un gros morceau du tronc. Alors vite, le petit frère a lancé une troisième flèche. Et la cime du pin, maintenant, elle atteignait les étoiles et les nuages. « Sautez vite !» a crié le petit frère. Kiona et ses sept frères, ils ont tous sauté sur un nuage. Le bison a chargé pour la troisième fois. Et cette fois, dans un bruit de tonnerre, le grand pin s'est écroulé sur le sol. Mais qu'allons-nous devenir? Nous sommes trop hauts pour pouvoir redescendre, a soupiré la jeune fille. Ne vous inquiétez pas, je vais tous nous transformer en étoiles. Le petit frère a murmuré des paroles magiques. Et immédiatement, tous les huit se sont transformés en étoiles. Ce sont les étoiles que nous, les Blancs, nous appelons le Grand Chariot. La plus brillante, c'est la sœur, Cybèle, qui remplit le ciel de ses broderies étincelantes. Et celle qui brille tout au bout du timon, eh bien, c'est le petit garçon. Et voici nos histoires terminées pour aujourd'hui. Les références des contes que je vous ai racontés. La première histoire, l'histoire du chasseur, je me suis inspirée de deux versions. Une version de Louda dans le livre « Cet endroit-là dans la taïga » et une autre de Catherine Gendrin qui est dans « Le tour du monde sur les ailes d'un oiseau ». Le roi qui voulait posséder la lune, c'est dans la revue « La Grande Oreille » numéro 62, « Sous les étoiles », une version d'Albéna Ivanovitch Lair. Et enfin, le troisième, « La petite brodeuse », c'est un conte Cheyenne que j'ai trouvé dans « L'oiseau tonnerre et autres histoires ». Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au mois prochain avec « Mais qu'est-ce qu'elle raconte ?» et de nouvelles histoires. Thank you.